je ne t'avais pas remarqué. Et nous sommes réunis donc ce matin, non pour assister à un culte, mais bien pour toutes et tous ensemble, rendre un culte qui soit agréable à notre Dieu. Vous voyez la différence qu'il y a entre assister et participer à un culte. Notre Dieu qui nous aime tant et si profondément qu'il n'a pas hésité à offrir son Fils unique en gage de son immense amour pour nous. Et ça, c'est quelque chose qui doit nous tenir à cœur. Dans Matthieu 18, 20, Jésus dit « Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, eh bien, je suis au milieu d'eux. » Alors ce matin, si je compte bien, on est plus que deux ou trois, et on a l'assurance, et on peut affirmer que Jésus, oui, Jésus, est présent ce matin au milieu de nous. Sommes-nous prêts à l'accueillir? Oui, je pense. Je vous propose de prendre, ce matin on va prendre deux chants pour introduire ce culte, et ces chants qui vont exprimer toute notre foi en Dieu.
Thank you.
Voilà, c'est une grâce de pouvoir affirmer notre foi aussi par le chant. Je vais demander à Élisée s'il veut prier pour notre Église, pour la santé de notre Église, et que vraiment le Seigneur nous encourage encore ce matin.
Père Céleste, merci pour l'Église, merci pour ton corps que tu as voulu et qui se réunit partout dans le monde. Oui. Merci pour cette diversité qui la caractérise, et merci aussi parce qu'elle elle aspire à être unie en toi. Et je te remets aussi l'église locale de Vendôme, je te remets tout ce que nous pouvons vivre ce matin, et merci pour ces temps de fraternité, d'encouragement, de communion ensemble. Amen.
Amen, amen. Merci Élisée, c'est une grâce de pouvoir prier aussi pour l'église. Voilà, le culte d'aujourd'hui sera particulier car nous ferons une prédication en deux parties. Voilà, elle sera divisée en deux. Alors aujourd'hui, les enfants ne descendent pas puisque il n'y a pas d'école du dimanche, il n'y a pas de garderie. Donc il y a des petites tables qui sont derrière, une petite table qui est derrière. J'ai préparé des dessins à colorier. Voilà, c'est ça, les dessins que montre Nathalie à colorier. Et si c'est bien colorié, eh bien, les enfants vont aller voir Wardia et elle leur remettra un bonbon. Bon, j'ai pas trouvé mieux, mais bon, c'est... voilà. Bon, il faut motiver quand même le peuple de Dieu, quand même, c'est important, quoi. Voilà. Et pour les plus grands, il y aura quelque chose d'autre après, à partir de la prédication. Ils auront à répondre à 10 questions et là encore, il y aura peut-être un bonbon. Voilà. Alors, donc pour les enfants, ce matin, j'avais préparé une petite histoire. En fait, je vous explique, je fais mon culte quotidien, et quand je lis, c'est comme si Dieu me racontait une histoire. Et puis, je suis arrivé dans un livre de l'Ancien Testament, et puis Dieu m'a raconté une histoire, donc je me suis dit, je vais la raconter ce matin au culte. Hein? Donc, c'est une histoire vraie qui se trouve dans la Bible, dans l'Ancien Testament, et chez le prophète Agé. Alors le prophète Agé, c'est pas un prophète qui est très vieux, hein, parce que c'est pas parce qu'il s'appelle Agé que c'est son âge. Hein. C'est le prophète, il s'appelle Agé, comme moi je m'appelle Daniel, quoi. Vous voyez. Alors c'était les histoires, ça commence toujours comme ça. C'était il y a très 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 longtemps. C'était en 522 avant que naisse Jésus. Le temple de Dieu, vous savez, c'est là où on se réunit, ça peut être aussi comme notre église, le temple de Dieu avait été détruit. Et le peuple d'Israël avait été fait prisonnier et amené à Babylone. C'était vraiment une situation triste. Dieu, il parle au cœur du roi Cyrus, qui était le roi de Babylone, pour lui dire « Envoie des gens de mon peuple pour qu'ils s'occupent de mon temple et qu'ils le reconstruisent. » Vous voyez que Dieu, il prenait à cœur que sa maison soit reconstruite, qu'on s'occupe de sa maison. Hein, pour lui, c'était important. Alors, le peuple, il rentre en Israël et on pense tous qu'il va reconstruire le temple. Et voilà que le peuple, de retour chez lui, il s'occupe de rebâtir ses propres maisons, il les rend très très belles, très confortables, et ils oublient totalement de s'occuper du temple de Dieu. Et ils disent des choses que Dieu n'aime pas trop entendre. Par exemple, les gens de ce peuple prétendent « Le temps n'est pas encore venu où le temple de l'Éternel doit être rebâti. » En gros, on a le temps... Et puis Dieu, il passe bien après, on n'est pas pressé, quoi. Alors pensez-vous que ça plaise à Dieu? Ça plaise à Dieu qu'on ne pense qu'à lui, qu'on ne pense pas à lui, mais qu'on pense qu'à nous. Est-ce que vous pensez ça? Non, bien sûr, hein. Alors quand Dieu n'est pas content, il le fait savoir. Il envoie son prophète âgé leur dire, Est-ce normal que chacun de vous habite tranquillement dans de belles maisons, vraiment luxueuses, quand mon temple croule en ruine? Est-ce normal? Bon, Dieu n'est pas contre le fait qu'on ait de belles et confortables maisons, mais de là à complètement oublier de penser à Dieu, à sa maison, quand même, c'est pas normal. Il leur dit encore, ça ne vous rapporte rien de ne penser qu'à vous et pas à moi. Réfléchissez bien à ce qui vous arrive. Regardez votre vie. Vous semez beaucoup, et puis vous récoltez peu. Car c'est moi, qui dit Dieu, qui vous accorde de belles et bonnes récoltes. Vous buvez, mais vous n'êtes pas désaltéré. Vous vous rendez compte? Vous vous couvrez de manteaux et de pulls, et vous avez toujours froid. C'est pas logique, c'est pas normal. Alors, réfléchissez à ce qui vous arrive quand vous ne pensez qu'à vous, dit Dieu. Est-ce que on prend chacun, le temps de réfléchir à ces choses-là? Il y a des choses qui ne vont pas dans ma vie, c'est difficile pour moi, ça ne devrait pas être comme ça, je devrais avoir une vie différente, meilleure, etc. Est-ce qu'on se pose ces questions-là? Voilà. Mais Agé, il dit, réfléchissez à ça. Alors Dieu, qui n'est pas un grand méchant père fouettard, leur glisse un petit conseil. Voilà ce qu'il leur dit. Je vous conseille ça. Je serai de vous, eh bien j'irai à la montagne, j'en rapporterai du bois et je rebâtirai le temple. Ça me ferait plaisir, dit Dieu. Et je me sentirai respecté par vous. Dieu donne de très très bons conseils, notamment dans la Bible. Est-ce qu'on les entend? Déjà, est-ce qu'on la lit, Voilà. Est-ce qu'on la lit? Est-ce qu'on entend les conseils de Dieu? Est-ce qu'on les met en pratique? Alors le peuple qui ne pense qu'à lui, et qui ne pense à lui plus qu'à Dieu, entend les paroles venant de Dieu. Ce peuple y réfléchit profondément, et alors, grosse surprise, il décide de changer de comportement en écoutant les paroles de Dieu. Ils regrettent amèrement leur comportement égoïste, et ils décident de respecter Dieu en écoutant et pratiquant sa parole. La Bible dit, le peuple eut du respect devant l'Éternel. Ils se sont mis à respecter l'Éternel. L'Éternel s'est senti respecté, aimé, et vraiment il a été content que le peuple fasse cette chose. Voir le peuple regretter son mauvais comportement et écouter ses paroles plaît à l'Éternel et touche son cœur. Alors Agé, le messager de l'Éternel, transmit au peuple ce message de la part de Dieu. Dieu dit au peuple, « Moi, je suis avec vous maintenant. » Vous vous rendez compte? Moi, je suis avec vous. » Cette petite histoire nous rappelle que Dieu est avec nous quand nous sommes avec lui. Vous voyez, des fois on dit, « Mais pourquoi Dieu n'est pas avec nous ?» Mais sommes-nous vraiment avec lui? Quand nous regrettons nos mauvais comportements, que nous l'écoutons, et surtout que nous fassions ce qu'il nous demande. La Bible dit dans Romains 8, 31, « Si Dieu est pour nous, s'il est avec nous, à nos côtés, qui sera contre nous ?» Et ça, c'est important pour notre vie chrétienne. Parce que c'est vrai qu'on est dans un monde, vous n'ignorez pas ce qui se passe en ce moment, un monde des fois terrible, dans lequel on a du mal à évoluer. Mais si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ? Bon, vous avez vu ce dessin là derrière? Il y a des lions, des crocodiles, des serpents. Mais tout ça, c'est spirituel. Ce sont des forces spirituelles qui combattent contre nous. Mais si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Vous pouvez le dire. Si Dieu est avec nous, personne. Qui veut que Dieu soit avec lui? Ah, on veut tout. Ah oui. Super. Voilà, qui veut que Dieu soit avec lui? Eh bien, s'il est avec nous, à nos côtés, qui sera contre nous? Alors, on va lui dire par ces deux chants qui suivent maintenant, l'Éternel, alors c'est maintenant, ça a changé, c'est un autre, parce que celui-là, on ne le connaît pas, c'est Yahweh, et puis...
Béni soit ton nom, je suis un peu sourd, excusez-moi. Béni soit ton nom.
Allez, on va lui dire hautement que vraiment, si Dieu est avec nous, il n'y a pas de raison que les gens soient contre nous.
Thank you.
Voilà, tant que tu es auprès de moi, Seigneur, aucun mal ne peut m'arriver. On l'a chanté, on le croit, j'espère. Et il faut le croire parce que maintenant, on va aborder des choses qui sont peut-être des fois difficiles à entendre. Parce que vous savez que j'ai entamé une suite de cultes, de prédications sur cette phrase « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde voilà. ». Aujourd'hui, j'en suis à jusqu'à la fin du monde. Oui. Donc, c'est pas un culte que je fais parce que il se passe des choses maintenant dans le monde. C'est quelque chose que j'avais déjà préparé longtemps à l'avance. Donc, ça arrive à ce moment-là. N'envoyez pas non plus de messages particuliers. Voilà. Donc nous voilà déjà arrivés à la troisième et dernière partie de la phrase prononcée par Jésus après sa résurrection depuis la montagne de Galilée. Et là, il s'adresse à 11 de ses disciples et il leur dit, dans Matthieu 28, verset 20, « Et voici, je suis avec vous tous les jours, hein, jusqu'à la fin du monde. » Alors, dans une première partie, nous avons vu que Jésus révélait sa propre déité. Il est Dieu. Au même titre, par exemple, que le Père et le Saint-Esprit, qui sont également Dieu. « Je suis » est le nom de Dieu révélé à Moïse en Exode 3, verset 14. « Je suis ». Je fais une parenthèse un instant. Les jeunes qui ont des petites feuilles à remplir, écoutez bien le culte, écoutez bien le message, parce que il y a des réponses à ce que vous devez mettre dans votre questionnaire. Jésus, il nous révèle surtout qu'il est l'Emmanuel annoncé. Dieu avec nous. Dieu avec nous. Le Fils de Dieu incarné qui est venu au milieu de nous pour nous sauver. Dans une seconde partie, nous avons vu que Jésus nous a révélé sa présence permanente, quotidienne et éternelle. Il est présent chaque jour au milieu de nous. Dieu est présent autour de nous car il est esprit, hein, on ne le voit pas, mais il est présent en nous par le Saint-Esprit donné par Jésus à la conversion, et ça on le sent en nous, on sent sa présence, moi je la sens ce matin par exemple, et il est présent chaque jour à côté de nous par sa parole de vérité et inspirée qu'est la Bible. Nous avons cette chance d'avoir la Bible à côté de nous, et c'est la présence de Dieu, sa parole, ses pensées, sa pensée profonde et intime qui nous révèle. Aujourd'hui, pour conclure cette série de révélations, parce que ce sont des choses cachées que Dieu nous révèle, je vous invite à réfléchir et surtout méditer sur la fin de la phrase de Jésus, jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Jésus nous révèle qu'il y aura bien une fin de ce monde, dans lequel nous évoluons comme un poisson évolue dans son bocal. Voilà, je ne sais pas si c'est une image très... Dès que nous abordons l'eschatologie, qui est l'expression adaptée pour désigner l'étude des temps de la fin, eschatos, ça veut dire dernier, nous ouvrons la porte à toutes sortes de fantasmes, de peurs diverses, de désirs parfois légitimes, parfois malsains, de donner à des symboles une valeur biblique qu'ils n'ont peut-être pas. Par exemple, Hitler, on a dit, c'est la bête. La Seconde Guerre mondiale, ça, c'est la fin du monde. Voilà. On a dit que ce n'était pas exactement ça. Je vous propose ce matin de ne parler que des révélations faites par Jésus dans Matthieu 24. Ça sera au moins biblique. On parle que des révélations que Jésus nous a faites dans Matthieu 24. Et surtout voir et comprendre comment le Seigneur est avec nous durant cette période peut-être un peu difficile à passer. Alors souvenez-vous du contexte. Jésus et ses disciples viennent de quitter la cour du temple de Jérusalem. Et ces derniers, les disciples, lui font remarquer la solidité de l'architecture du bâtiment. En quelque sorte, ils leur disent « Rien ne pourra en venir à bout. Ce temple majestueux survivra au temps et à son usure. Regarde comme il est costaud, comme il est bâti. » Jésus, qui connaît toutes choses, saisit l'occasion pour leur révéler la vérité sur l'avenir du temple et ce qui va se passer dans les temps futurs. Oui, leur dit-il, regardez bien tout cela. Vraiment, je vous l'assure, tout sera démoli. Il ne restera pas une pierre sur une autre. Alors en filigrane, Jésus leur révèle que tout a une fin. Même les choses en apparence les plus solides. Ce monde, comme nos vies, aura un terme, il se terminera un jour. La réponse de Jésus est reçue 5 sur 5 par les disciples. Ils comprennent parfaitement de quoi parle le maître. Alors, ils osent quand même poser la question qui intrigue leur cœur, qui brûle leurs lèvres, peut-être les nôtres aussi. Hein. Dis-nous quand cela arrivera-t-il ? Avouez que nous sommes nous-mêmes curieux et aimerions bien connaître le jour, l'heure et l'année de la fin du monde. Les disciples qui connaissent les prophètes et les prophéties savent qu'il y aura une fin du monde. Déjà dans Ésaïe, on pouvait lire, Ésaïe 13, verset 9, « Voici le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. » Voilà, déjà dans Ésaïe, hein, c'était déjà longtemps avant Jésus-Christ. À aucun moment les Écritures, les prophètes, ne révèlent de date pour ce jour. Abdias 15, le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations. Voilà, il est proche. Mais on ne dit pas ni le jour ni la date. Jésus lui-même nous révèle au verset 36, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Seul le Seigneur connaît, seul le Père éternel connaît. Alors de grâce, frères et sœurs, ne cherchons pas à savoir ce qui nous est caché et appartient à la seule autorité du Père. N'allons pas non plus vers ceux qui, par des inspirations, des révélations parfois sataniques, nous annoncent la fin du monde pour une date précise. Bon, la date que j'ai marquée, c'est pas la vraie, hein. Si Jésus ne répond pas à l'attente de ses disciples sur la date de la fin du monde, il va malgré tout leur donner une foule d'informations, un nombre de signes qui vont à la fois précéder et accompagner cet événement. Tout d'abord, Jésus va faire une différence capitale entre les temps de la fin, c'est un espace de temps qui est limité entre la première venue de Jésus-Christ sur terre jusqu'à la fin du monde, voyez, et le jour de l'Éternel qui désigne l'instant final. Alors, si on peut donner un exemple footballistique, parce que vous savez que j'aime bien le foot, hein, c'est peut-être pas la meilleure image, mais les temps de la fin représentent le match, alors que la fin du monde serait le coup de sifflet final. Alors, vous l'avez toutes et tous compris, depuis la première venue de Jésus, Christ nous sommes entrés dans les temps de la fin. Les prophètes de l'Ancien Testament parlaient d'eux en disant « en ces jours-là ». Et ils nommaient des temps futurs qui ont trouvé leur accomplissement en Actes 2.17. Actes 2.17. « Voici ce qui arrivera, dit Dieu, dans les jours de la fin des temps. » Je répandrai de mon esprit sur tous les hommes, oui, sur mes serviteurs comme sur mes servantes. En ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Cette prophétie de Joël, chapitre 3, versets 1 à 5, s'est réalisée à la Pentecôte. En s'adressant à ses disciples, Jésus va s'adresser à toutes celles et ceux qui suivent son enseignement, qui sont unis à lui par sa mort et sa résurrection, c'est-à-dire tous les chrétiens et chrétiennes, et bien sûr à son Église qui est le corps du Christ. Jésus, s'il donne des signes de la fin des temps, n'oublie jamais d'affirmer sa présence par des mises en garde, des conseils éclairés qui sont des gages d'amour importants pour traverser les périodes difficiles qui vont marquer la fin des temps, puis la fin du monde. Voilà. Il faut être sensible aussi au fait que Dieu nous accompagne. Jésus, il est avec nous. Il y aura des moments terribles, mais en même temps, Dieu sera là, et Dieu nous fera du bien, et Dieu nous accompagnera. Le premier signe, ce seront les faux Christ. Verset 4. Faites bien attention. Jésus nous prévient, nous alerte. Que personne ne vous induise en erreur, car plusieurs viendront sous mon nom en disant « Je suis le Christ » et ils tromperont beaucoup de gens. Alors de tout temps, il y a eu de faux prophètes, mais dans les temps qui précèdent la fin du monde, Jésus prévient que Satan va exercer une puissance spirituelle de mensonge et d'égarement. Dans sa vision sur la fin des temps, l'apôtre Jean écrit dans Apocalypse 12:9 « Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, qu'on appelle le diable et Satan, celui qui égare le monde entier. » Verset 12 « Malheur à la terre et à la mer, le diable est descendu vers nous en frémissant de rage, car il sait qu'il lui reste très très peu de temps. » Frères, sœurs, nous sommes prévenus. Satan va se déchaîner contre le monde, la terre, l'être humain, et surtout contre l'Église. Et les chrétiens en envoyant ceux que Pierre qualifie d'enseignants de mensonges. 2 Pierre, chapitre 2, verset 17. Alors Jésus nous invite à être prudents, à faire preuve de discernement, afin de ne pas nous laisser égarer. Dieu, tel le bon berger, est avec nous chaque jour. Il protège le troupeau qui est l'Église, il nous instruit par la Bible, et par son Saint-Esprit. Dans Hébreux 10, verset 25, retenez bien ce passage. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, d'autant plus sérieusement que vous voyez se rapprocher le grand jour du retour du Seigneur. Vous voyez, alors il ne parle pas d'une église précise, hein, mais si Jésus a instauré l'église qui est son corps, c'est avant tout pour nous protéger. N'allons pas non plus vers ceux qui, sur Internet, par exemple, qu'on ne connaît pas forcément l'origine, nous proposent des expériences nouvelles. Pour les plus anciens, souvenez-vous, souvenons-nous de la bénédiction de Toronto. Voilà, et de ses dérives. Beaucoup de chrétiens se sont engagés dans cette dérive. Mais aussi des prétendues révélations venues du Christ et qui remettent en question les grandes vérités bibliques. Attention à cela. Soyons vigilants et appuyons-nous sans réserve sur Jésus et sa parole de vérité. La Bible, on a la Bible, pourquoi est-ce qu'on va chercher ailleurs? Deuxième signe, les guerres, les bruits de guerre, les famines, les maladies et les tremblements de terre. Toutes ces calamités caractérisent en même temps la colère profonde de Dieu contre le monde, mais aussi la méchanceté, la haine des êtres humains entre eux, leur profond égoïsme. Ils ne se respectent pas, ils ne respectent non plus aucune autorité, et particulièrement celle de Dieu. Vous savez, quand vous lisez par exemple la lettre de Paul à Timothée, 2 Timothée 3, versets 1 à 5, alors écoutez bien ce que Paul dit, et vous allez retrouver ce qu'on trouve dans les journaux. Sache que dans les derniers jours, il y aurait des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi d'eux. Tous ces événements qui remplissent nos journaux, nos télévisions, qui alimentent nos informations télévisées, ont de quoi nous inquiéter. Voire aussi, peut-être, nous effrayer. Peut-être, au fond de votre cœur, êtes-vous effrayé. Pourtant, Jésus, lui, il nous rassure. C'est ça qui est bien. Attention, ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles, car cela doit arriver, mais ça ne sera pas encore la fin. Frères et sœurs, est-ce que vous êtes inquiets? Est-ce qu'au fond de votre cœur, toutes ces choses-là vous inquiètent? Dans Proverbes 12, 25, il est marqué « Le souci au fond du cœur déprime un homme, mais une parole d'encouragement lui rend la vie. » Cette parole d'encouragement nous est donnée par Paul dans sa lettre aux Philippiens, au chapitre 4, versets 4 à 7, que je vais vous lire. « Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie, le Seigneur est proche, ne vous mettez pas en souci pour rien. » Mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes, en lui disant aussi votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Amen. Amen. Troisièmement, bien souvent, nous entendons autour de nous des gens bien intentionnés qui militent pour un monde meilleur, qui croient que nos sociétés vont devenir plus paisibles, quand on dira paix et sécurité. Ce n'est pas du tout ce qu'affirme Jésus, bien au contraire. Là, il nous dit, quand ces choses vont arriver, ce ne seront que les premières douleurs de l'enfantement. Alors moi, je n'ai jamais enfanté, mais toutes les femmes qui ont enfanté savent ce que c'est que les premières douleurs de l'enfantement. À présent, Jésus va annoncer la plupart des malheurs spirituels qui vont atteindre la communauté chrétienne. Apostasie, traîtrise, division dans l'Église, hérésie, manque d'amour. Et au verset 9, « Alors on vous persécutera et on vous mettra à mort. Toutes les nations vous haïront à cause de moi. À cause de cela, beaucoup abandonneront la foi et ils se trahiront les uns les autres. » C'est pas réjouissant, tout ça. Mais Jésus ne nous a jamais appelés à vivre une vie tranquille, une vie pépère. Bien au contraire. Qu'est-ce qu'il dit Jésus dans Jean 15, 20 ? Le serviteur n'est pas supérieur à son maître, leur dit Jésus. Ils m'ont persécuté, alors ils vous persécuteront aussi. Pour toutes celles et ceux qui pensent encore que la vie chrétienne est un long fleuve tranquille, je vous invite à méditer ce verset de Paul à Timothée, 2 Timothée 3,12. Tous ceux, toutes celles qui sont décidées à vivre dans l'attachement à Dieu par leur union avec Jésus-Christ, connaîtront la persécution. Voilà. Alors, d'une manière ou d'une autre. La persécution est un acte spirituel démoniaque. L'ennemi envoie ses forces spirituelles invisible contre les chrétiens pour les décourager, les éliminer, leur faire peur, afin de les empêcher de témoigner leur foi, la bonne nouvelle est d'être actifs pour l'œuvre du Christ. Il va exciter aussi les non-chrétiens contre les chrétiens. Il va les attaquer dans leur santé, comme Job, par exemple. Vous avez des chrétiens qui sont très très attaqués dans leur santé. C'est une persécution. Ils divisent les couples. C'est une persécution. Mais aussi, il divise les églises. C'est de la persécution. L'apôtre Paul nous invite au combat de l'esprit. Éphésiens 6, 10. Allez, puisez votre force dans le Seigneur. Puisez votre force dans le Seigneur. Éphésiens 6, 10. Puiser notre force dans le Seigneur, c'est résister à l'ennemi tout en faisant confiance à Dieu. 2 Pierre 2,9, le Seigneur sait comment délivrer de l'épreuve ceux qui lui sont attachés. Alors, contre les divisions, par exemple, dans l'Église, Paul nous dit, Éphésiens 4, versets 2 et 3, « Soyez toujours humbles, aimables et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. » Voilà. Pour toutes celles et ceux qui, comme moi, souffrent physiquement, c'est vrai, quand j'arrête pas d'être accablé par... Et c'est une forme de persécution par les atteintes physiques. 1 Pierre 2,19, c'est un privilège que de supporter des souffrances imméritées par motif de conscience envers Dieu. C'est vrai, souvenons-nous des souffrances endurées par Jésus. Ma souffrance à côté de la sienne, c'est rien. Ésaïe 53, verset 3, « Homme de douleur habitué à la souffrance. » Il s'est habitué à la souffrance. Moi, je dois m'habituer aussi à la souffrance. Nous tenons par la force puisée dans celle du Seigneur. Jésus n'abandonne jamais celles et ceux qui placent leur confiance en lui. Si l'on vacille, si l'on tombe, comme par exemple l'apôtre Pierre, qui a renié Jésus, revenons à Dieu, n'abandonnons jamais la foi qui sauve. Matthieu 24, versets 12 et 13, « Parce que le mal ne cessera de croître, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. On peut tomber, revenir, mais il ne faut jamais s'éloigner. » Le quatrième signe donné par Jésus touche à l'évangélisation du monde. Verset 14, « Cette bonne nouvelle du règne de Dieu sera proclamée dans le monde entier pour que tous les peuples en entendent le témoignage. Alors seulement viendra la fin. » Quand tout le monde aura entendu parler de la parole de Dieu, alors seulement viendra la fin, pas avant. L'apôtre Pierre, dans sa seconde lettre, écrit 2 Pierre 3, verset 3, « Sachez que dans les derniers jours, des moqueurs viendront et tourneront votre foi en ridicule en disant, « Eh bien, il a promis de venir, Jésus, mais c'est pour quand ?» Nos ancêtres sont morts et depuis que le monde est monde, rien n'a changé, c'est toujours la même chose dans le monde. Croyez qu'il va y avoir une fin du monde ? Frères, sœurs, c'est vrai qu'il nous arrive d'entendre de telles paroles d'incrédulité. Que pouvons-nous répondre à cela ? Eh bien, l'apôtre Pierre apporte une parole de révélation que nous serions bien inspirés nous-mêmes de méditer. 2 Pierre 3, verset 9. Non, le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains l'imaginent. Il fait simplement preuve de patience à notre égard, car il ne veut pas qu'un seul de nous périsse. Il voudrait au contraire que tous parviennent à changer de vie. Frères, sœurs, soyons bien conscients que toutes et tous ne se convertiront pas. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, hélas. Matthieu 22, verset 14, « Mais Dieu attend que tous les élus du monde entier soient au rendez-vous de son appel. » Voilà pourquoi il fait traîner peut-être les choses. Bien évidemment, nous ne sommes pas tous appelés à être des évangélistes. Mais nous pouvons témoigner autour de nous, prier pour que Dieu envoie des missionnaires, donner de l'argent pour les œuvres d'évangélisation dans le monde, offrir des Bibles et ainsi hâter le retour du Seigneur. 2 Pierre 3, 12, « Menez une vie sainte et soyez attachés à Dieu en attendant que vienne le jour de Dieu et en hâtant sa venue. » Frères, sœurs, chacun de nous a un rôle à jouer. Si infime soit-il, parce que des fois, c'est pas facile dans l'évangélisation du monde, sommes-nous prêts à participer à l'œuvre salvatrice de Dieu avec l'aide de Dieu ? Voilà, je vous propose de faire une petite pause avant d'aborder la deuxième partie qui va marquer la fin du monde. Et j'aimerais, pendant cette courte pause, vous proposer de méditer sur deux phrases de Jésus. Vous savez, quand j'étais jeune chrétien, la première chose que j'ai vue dans ce passage, c'est marqué « Priez pour que ça arrive pas en hiver ». C'est vrai, je me suis dit, mais oui, si ça arrive en hiver, on va tous avoir froid, on va cailler, quoi. Hein? Et donc, je me suis mis à prier tous les jours pour pas que ça arrive en hiver. Mais il y a des phrases comme ça que nous dit Jésus, il faut les retenir, et puis prier pour ça. Jean 17, verset 15, en parlant de nous, Jésus dit au Père, « Je ne te prie pas, Père, de les ôter du monde, mais de les préserver de l'esprit du mal. » Voilà, on peut prier pour ça. Dans Luc 22, 31, qui m'a beaucoup touché, parce que le Seigneur, il s'adresse à Pierre, mais aussi à nous à travers Pierre. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Voilà, que notre foi ne tombe pas, que notre foi ne défaille pas. Et je vous propose maintenant un temps de prière. Nous allons prendre un moment pour prier sur ces deux thèmes. Puis nous finirons en ce moment par deux chants. Jésus soit le centre et nous élevons le nom de Jésus. Voilà, je propose qu'on prenne un temps de prière et pour remettre au Seigneur vraiment toutes ces choses. Alors on peut le faire à haute voix ou dans son cœur ou... Oui, Seigneur, on peut être au milieu des scorpions, on peut être au milieu des serpents, on peut être au milieu des vipères. On peut vivre des moments difficiles, mais toi, tu es toujours là, Seigneur. C'est une grâce que tu sois là. Merci, Seigneur, parce que tu tiens chacun de nous dans tes mains. Et quand je lis des passages bibliques merveilleux, comme si on touche à l'un d'eux, c'est comme si on touchait à la prunelle de mon œil, Seigneur, tu nous montres quel amour est le tien. Et vraiment, Seigneur... Moi, je sais que j'ai rien à craindre avec toi, Seigneur. Tu es mon Dieu, tu es ma force, tu es ma puissance. Merci, Seigneur, parce que des fois j'ai peur que ma foi défaille, mais je sais que Jésus a prié pour que ma foi ne défaille point. Vraiment, Seigneur, continue à prier pour nous, Seigneur. Continue à prier pour que notre foi soit toujours puissante en toi, soit vivante. Gloire te soit rendue, Seigneur. Amen. Amen. Et Seigneur, c'est vrai, ce n'est pas une mauvaise nouvelle que tu nous annonces. Au contraire, c'est une bonne nouvelle. Tu nous annonces, Seigneur, que tu vas revenir et ton retour, Seigneur, nous remplit de joie. Et c'est vrai, Seigneur, c'est ça qui est la base de notre foi, Seigneur. C'est de savoir que tu vas revenir. Et Seigneur, comme tu nous aimes, ben, Seigneur, tu vas nous faire du bien. Vraiment, gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à toi. Amen. Amen. Voilà, je propose qu'on puisse prendre deux chants, donc le 772 et le 638. Vous tenez le coup?
Ben, je parle pas aux jeunes, Dominique, parce que lui, il tient le coup tout le temps. Mais est-ce que tout le monde est en forme? On continue? C'est la fin du monde. Enfin, pas aujourd'hui. Hein. La fin du monde, le jour de l'Éternel, le retour du Seigneur. Alors ce jour, rappelons-le, dont Dieu seul connaît la date, sera précédé, nous dit Jésus, par trois événements significatifs, trois événements remarquables. Le premier sera un événement religieux qui se passera en Israël. Voilà. Verset 15. « Quand vous verrez l'abominable profanation annoncée par le prophète Daniel s'établir dans le lieu saint, que celui qui voit et qui entend comprenne. » Alors le prophète Daniel, lui, décrit un monarque cruel et impie qui persécutera durement le peuple fidèle et profanera le temple. Daniel 11:31. Certaines de ses troupes prendront position sur son ordre, elles profaneront le sanctuaire et feront cesser le sacrifice perpétuel. Alors, ça s'est déjà passé, ça. Ça s'est passé dans la personne d'Antiochus Épiphane. Lui, il a eu la bonne idée, enfin, quand je dis bonne idée, c'est au sens moqueur, hein, il a offert un porc en sacrifice à Zeus sur l'autel sacré du temple en 168 avant Jésus-Christ. Un événement semblable aura lieu à la fin du monde, quand l'Antichrist fera une image de lui-même et ordonnera à chacun de l'adorer.
Jésus, lui, nous prévient, il dit « La détresse sera si grande qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde, jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais plus. Cette période sera terrible, mais le Dieu d'amour, qui est avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde, interviendra pour abréger ces jours. » Et cela, pour qui ? À cause des élus, à cause de nous. Deuxième signe, de faux Christ apparaîtront en divers lieux, disant « Je suis de retour, je suis ici, venez me voir. » Voilà, ils vont à nous appeler. Jésus lui dit « Ne les croyez surtout pas, n'y allez pas, ils feront même des signes miraculeux au point de vous tromper. » Même les élus. Alors nous, dans les églises, quand on saura que le Christ est revenu, on va se précipiter. N'y allez pas. N'y allez pas. Jésus conclut en disant, voilà, je vous l'ai annoncé d'avance, et c'est vrai qu'un chrétien averti en vaut deux. N'allez pas vers eux. Le troisième signe, aussitôt après ces jours de détresse, nous dit Jésus, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances du ciel seront ébranlées. Alors, ces signes cosmiques, apocalyptiques, qui sont cités dans Ésaïe 13:10, marqueront alors le retour du Messie. Verset 30, « Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. » C'est la parousie. La parousie, c'est la transcription du mot grec parousia, qui signifie présence, arrivée, retour de Jésus. Ce terme évoque la venue glorieuse et ultime de Jésus-Christ pour celles et ceux qui s'interrogent sur le retour de Jésus. Eh bien, sachez que l'Écriture y fait allusion à peu près 300 fois. Dans la Bible, c'est énorme le nombre de fois que la Bible parle du retour de Jésus. Dans Actes 1, verset 13, par exemple, alors que Jésus était réuni avec ses apôtres, il s'éleva dans les airs. Pendant qu'ils le regardaient, une nuée le cacha à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, eh bien deux hommes habillés en blanc leur apparurent et dirent « Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Voilà, Jésus, il reviendra dans les airs. Donc tous ceux qui vous disent, voilà, je suis dans les salons, je suis dans les déserts, etc., ce sera faux. Jésus revient dans les airs. Frères, sœurs, cette promesse du retour de Jésus va s'accomplir au jour de la fin du monde. La Bible décrit le retour physique de Jésus comme un événement qui se déroulera en deux temps. Un premier dans les airs, un second sur la terre. Alors, les théologiens ne sont pas tous d'accord avec le déroulé de ces deux événements. Certains pensent que ces deux temps, pensent que ça se fera en deux temps. Ce sera des événements différents. Certains pensent que ça se passera simultanément, à la suite, lors de la fin du monde. Et d'autres pensent qu'ils seront séparés dans le temps. Pour ma part, ce matin, si je peux donner mon avis, et si je suis les paroles de Jésus en Matthieu 24, je n'entends pas Jésus parler de deux événements séparés, mais d'une seule venue, d'un seul retour. Mais ça, ce n'est que mon avis, hein, et je ne suis pas théologien, loin de là. Je traiterai donc ces deux temps séparément. Tout d'abord, le retour de Jésus, son avènement, se fera de manière brusque et complètement inattendue. La Bible donne deux images pour caractériser son retour. L'image du voleur dans la nuit. 1 Thessaloniciens 5:2. Le jour du Seigneur viendra de façon aussi inattendue qu'un voleur en pleine nuit. On ne s'y attendra pas. Ce sera une surprise totale. On vaquera nos activités. Serons-nous prêts à l'accueillir à ce moment-là? Autant de questions importantes à réfléchir. Et puis, la deuxième image, c'est l'image de Noé. Matthieu 24, verset 37. Lors de la venue du Fils de l'homme, les choses se passeront comme au temps de Noé. En effet, à l'époque qui précéda le déluge, eh bien, les gens étaient occupés à manger et à boire, à se marier et à marier leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans le bateau. Ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que vienne le déluge qui les emporta tous. Ce sera, dit Jésus, la même chose lorsque le Fils de l'homme viendra. Hein ? On mariera nos filles, nos enfants, on ira faire nos courses, on regardera la télé, on fera des choses, et puis ça viendra d'un seul coup. Jésus décrit un jugement comme à l'époque de Noé, où les 8 personnes qui étaient dans l'arche furent sauvées et le monde englouti sous les eaux du déluge. Ça, c'est un jugement. Dieu en a sauvé certains, mais pas tous. Le déroulé de la promesse du retour de Jésus. Au verset 30. « Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. » Quel est ce signe? Alors la Bible donne une réponse. Apocalypse 1, verset 7. « Voici, il vient au milieu des nuées et tout le monde le verra. » Pas seulement les chrétiens, mais les habitants du monde entier le verront. Les premiers se réjouiront de la venue de Jésus, les autres, les non-croyants, au contraire, se lamenteront. Oui, ce sera un jour de jugement. Apocalypse 1, verset 7. Toutes les familles de la terre se lamenteront à cause de lui. Toutes les familles de la terre, c'est-à-dire les non-croyants. En voyant Jésus venir sur les nuées, elles comprendront que celui en qui elles n'ont pas cru était le véritable. Verset 40. Alors, deux ouvriers travailleront côte à côte dans un champ. L'un sera emmené, l'autre laissé. Vous voyez ce dessin? Il est où Maurice? Celui qui lisait sa Bible tous les matins. Il a disparu. Deux femmes seront en train de tourner la pierre de meule, l'une sera emmenée, l'autre laissée. Frères, sœurs, la vérité essentielle de ce verset de Jésus, c'est qu'à ce moment aura lieu la grande séparation entre les enfants de Dieu et ceux qui ne lui appartiennent pas. Alors même des gens de l'Église qui n'ont pas donné leur cœur à Jésus. L'apôtre Paul, dans sa première lettre aux Thessaloniciens, au chapitre 4 et versets 14 à 18, nous en dit plus sur ce qui arrivera aux chrétiens lors du retour de Jésus sur les nuées. Verset 14. En effet, puisque nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voilà, les morts vont ressusciter. Lors de son retour, s'effectuera la résurrection des morts de tous les temps. Vous voyez, Abel et Caïn. Verset 15. Car voici ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous qui serons restés en vie au moment où le Seigneur viendra. C'est peut-être nous, c'est peut-être pas nous. Nous ne précéderons pas ceux qui sont morts. Paul nous dit clairement que les ressuscités en Christ rencontreront Jésus en premier. Verset 16. En effet, au signal donné, sitôt que l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts unis au Christ ressusciteront les premiers. Verset 16. Ensuite, nous qui serons restés en vie à ce moment-là, eh bien nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. C'est incroyable, moi j'ai du mal à croire qu'on va monter comme ça dans les airs. Et ça sera, mais c'est vrai. Ce jour-là, celles et ceux qui seront vivants, nés de nouveau, monteront dans les airs vers le Seigneur pour rejoindre Jésus. Vous y croyez? Amen. L'apôtre Paul, dans une autre lettre, 1 Corinthiens 15, versets 51 à 56, nous révèle un autre mystère spirituel. Ce n'était pas écrit dans la Bible avant. Verset 51. « Nous ne passerons pas tous par la mort, mais nous serons tous transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette dernière. » Frères, sœurs, les ressuscités en Christ n'auront plus de corps corruptible, de corps pécheur et mortel. Ils auront accès direct au Christ. Mais les vivants en Christ porteurs d'un corps pécheur, porteurs du péché, devront être changés, transformés pour accéder au royaume de Dieu. Car ce qui est corruptible, nous dit Paul, ne peut avoir part à l'immortalité. Voilà, nous serons transformés, changés en un clin d'œil pour arriver vers Jésus. L'apôtre Paul, dans sa première lettre aux Thessaloniciens, conclut en disant « Ainsi nous serons tous pour toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous mutuellement par ces paroles. Frères, sœurs, êtes-vous prêts à passer votre éternité avec Dieu ?» Et vous savez qu'on l'a passé ensemble, hein. Donc on a intérêt aussi à avoir de bonnes relations ensemble. Et puis, un second temps nous est donné par la Bible, le retour de Jésus sur le mont des Oliviers. Lors du départ de Jésus du milieu des apôtres, souvenez-vous ce que disaient les deux anges. Ça, c'est important de s'en souvenir. Homme de Galilée, ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, en redescendra un jour de la même manière que vous l'avez vu y monter. Alors les disciples quittèrent la colline qu'on appelle le mont des Oliviers. C'est sur les monts des Oliviers que Jésus va poser les pieds. Dans sa prophétie sur la fin du monde, le prophète Zacharie décrit un combat final contre l'esprit du mal. Zacharie 14, versets 1 à 9. « Voici venir le jour de l'Éternel. J'assemblerai alors l'ensemble des nations devant Jérusalem pour la combattre. La ville sera prise, les maisons saccagées et les femmes violées. La moitié de la ville partira en exil, mais le reste du peuple ne sera pas éliminé de la ville. Toutes les nations du monde seront rassemblées devant Jérusalem par l'Éternel afin de la combattre et de la détruire. » Dans un premier temps, Israël, semble-t-il, combattra toutes ces nations. Puis Dieu prendra le relais par Jésus-Christ. L'Éternel viendra, au verset 13, alors combattre ces nations comme il le fait quand il combat au jour de la bataille. Frères, sœurs, soyons-en sûrs, Dieu n'abandonne jamais ni son peuple, ni ses enfants que nous sommes. En ce jour-là, il posera ses pieds sur le mont des Oliviers près de Jérusalem, qui se fendra d'est en ouest, en deux parties. Il y aura une grande vallée qui va se faire. Une immense vallée se creusera entre les deux. Cette vallée sera comblée comme elle l'a été lors du tremblement de terre au temps d'Ozias, roi de Juda. Alors cette immense armée qui regroupe toutes les nations de la terre sera probablement engloutie dans la vallée, anéantie par le terrible tremblement de terre provoqué par Jésus. Alors nous dit Zacharie, l'Éternel, mon Dieu, viendra avec tous ses saints anges. À ce moment-là, ce sera très probablement une porte qui s'ouvrira sur des temps de bénédiction spirituelle. Verset 6, en ce jour-là, il n'y aura plus de lumière. Plus de luminaire, plus de froid, plus de gel. Ce jour sera unique, il est connu de l'Éternel, et il n'y aura ni jour ni nuit. Et même le soir, la lumière brillera. En ce jour-là, l'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Dieu et on le priera lui seul. Frères, sœurs, ce sera très certainement le nouveau ciel et la nouvelle terre dont parle Jean dans Apocalypse 21. Alors à présent, il est grand temps de conclure en nous disant, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jésus nous prévient qu'il y aura des temps compliqués, des temps difficiles à vivre, mais que Jésus nous aidera à traverser par sa présence bénie et quotidienne. Vous savez, j'ai l'habitude de dire, et je le crois profondément, il vaut beaucoup mieux passer ces temps avec Dieu que sans Dieu. Franchement, ces temps que nous allons les passer, si nous les passons avec Dieu, ils vont passer beaucoup plus facilement que si on n'avait pas Dieu. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains 8:18, nous rappelle que toutes les souffrances morales, physiques et spirituelles que nous traversons dans cette vie sur la terre, n'ont absolument rien à voir avec toutes les belles choses, les merveilles que nous allons vivre avec Dieu dans son royaume glorieux. Et je voudrais terminer cette prédication par ces très beaux versets de l'apôtre Jean dans Apocalypse 2, versets 3 et 4. « J'entendis une forte voix issu du trône qui disait « Voyez à présent Dieu a dressé sa tente parmi les hommes et il la partage avec eux. Désormais, il habitera au milieu d'eux. Ils seront son peuple. Dieu sera personnellement avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus ni mort, ni tristesse, ni souffrance. On n'entendra plus de plainte, ni de cris de douleur. Et tout ce qui fut autrefois a passé pour toujours. Pour toujours. » Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous propose de terminer cette prédication par la prière et nous prendrons encore un chant. Seigneur, tu ne nous as pas caché qu'il y aura des temps difficiles, il y aura des temps difficiles pour ce monde, pour les chrétiens, mais tu nous as aussi donné la bonne nouvelle que tu étais avec nous tous les jours, que tu nous fais du bien, Seigneur. Tu nous portes sur tes ailes d'amour, tu nous encourages, tu es là, Seigneur, et on est comme des enfants avec nos parents. Tu nous tiens par la main et tu nous emmènes là où il faut. Merci, Seigneur, parce que dans ces temps difficiles, nous aurons besoin de toi. Nous aurons besoin de ta présence. Nous aurons besoin de ton aide. Vraiment, Seigneur, accompagne-nous et fais-nous du bien. Et nous pouvons chanter tous les jours, Seigneur, ta présence et ta joie. Merci, Seigneur, parce que tu donnes la joie dans notre cœur, Seigneur. Béni soit ton nom et louange et gloire à toi. Amen. Voilà, je propose qu'on prenne, avant les annonces, le chant numéro 258, « Car ta bonté vaut mieux que la vie ». Là, on a quand même une super chance ce matin d'avoir des musiciens. Hein. Et moi, je les remercie beaucoup parce que, franchement... alors là, je sais que c'est Élisée et Théa. Hein. Par contre, je ne connais pas mes frères et sœurs. Alors, tu... Néhémie ? Michael ? Ben, merci Néhémie et Michael. On peut les applaudir aussi parce que, franchement, c'est... Voilà, c'est une chance, hein. On a de la chance quand même dans notre église, hein. On a quand même des gens formidables. Voilà, maintenant c'est un temps d'annonce. Alors moi j'ai deux annonces, mais il y en a peut-être d'autres. Alors donc, l'annonce première, c'est il y a un culte témoignage dimanche prochain, alors que je vais animer aussi. Si vous avez des témoignages, si vous voulez témoigner, alors pas des témoignages de 3 heures, hein, c'est 5 minutes maximum. Hein, si vous faites 6, je ne viendrai pas vous interrompre. Hein. D'accord. Donnez-moi le thème de votre témoignage pour que je trouve aussi dans la Bible des passages qui correspondent à ce que vous dites. Et donc, venez me voir ou envoyez-moi un mail et dites voilà, je suis prêt à témoigner dimanche prochain. Et, hein, d'accord. Voilà. Le témoignage, c'est bien parce que ça permet aussi d'exprimer ce qu'on vit au plus profond de nous.